Salut et bienvenue à toi, amateur d'écologie, mais aussi individu soucieux du bien-être de ton porte-monnaie. Je suis très heureux de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast de la Terre dans les épinards. Crise environnementale oblige, les entreprises doivent de plus en plus montrer patte blanche ou en l'occurrence patte verte. Plus spécifiquement, les entreprises sont de plus en plus incitées à surveiller de près leurs émissions de gaz à effet de serre pour pouvoir tenir les objectifs fixés en termes de réchauffement climatique. Et du coup, tu auras sans doute lu ou entendu que des entreprises étaient neutres en carbone ou se proposaient de compenser leurs émissions, par exemple en plantant des arbres. L'idée est de créer des nouveaux puits de carbone qui contribueraient à absorber ce dernier pour compenser les émissions de gaz à effet de serre. Le concept est intéressant, mais penchons-nous davantage sur le sujet. L'idée de la compensation, c'est théoriquement de mettre en place des actions ayant un bénéfice écologique permettant de compenser l'impact négatif d'un projet, d'un produit ou d'un service. Théoriquement, parce que, en pratique, c'est loin d'être aussi évident. Autant il est possible d'évaluer l'empreinte carbone d'un produit ou d'un service, autant il est plus compliqué d'estimer le bénéfice de l'action de compensation tant celle-ci dépend de multiples facteurs. Reprenons l'exemple de nos arbres pour illustrer ce point. Le premier problème que pose la compensation carbone, pensée de manière comptable, c'est-à-dire je pollue tant donc je compense tant, c'est celui de la temporalité. En effet, les émissions de gaz à effet de serre que l'on se propose de compenser sont émises dans le présent, mais les bénéfices attendus, quant à eux, s'étaleront dans le temps. Un arbre nouvellement planté ne va pas absorber en une heure la quantité de carbone qu'il est supposé contrebalancer. Les bénéfices arriveront donc moins vite que les effets néfastes des émissions d'origine, et en attendant que les arbres fassent le boulot attendu, les gaz à effet de serre émis auront quant à eux continué à nous tenir chaud pendant quelques années. Et auront, accessoirement, continué à accélérer le processus d'acidification des océans évoqué dans l'épisode de podcast précédent. Et tout ça, c'est en supposant que l'arbre vive assez longtemps pour jouer son rôle. C'est en effet là qu'intervient un deuxième problème, on ne sait pas quel sera le futur de l'arbre. On peut supposer qu'il vivra quelques dizaines d'années, mais imaginons un impondérable, que la forêt plantée pour compenser les émissions de gaz à effet de serre brûle, ce qui est malheureusement un scénario qui risque d'être de plus en plus probable avec le réchauffement climatique. Dans ce cas, lesdites émissions ne seront jamais compensées entièrement et l'incendie libérera également du CO2. Bon, un pas en avant, deux pas en arrière. Il est donc difficile de savoir dans quelle mesure les arbres plantés vont pouvoir effectivement avoir des impacts positifs. On le voit, l'approche comptable de la compensation est largement insuffisante. Et tout cela, c'est en supposant que la reforestation soit réalisée dans une perspective globale. Courrier International cite ainsi, dans un article datant de décembre 2021, deux exemples de reforestation contre-productive. Dans un cas, une forêt a été plantée sur un sol de couleur claire qui avait tendance à réfléchir les rayons du soleil. La forêt, de couleur plus sombre, absorbe au contraire la chaleur, accentuant le phénomène de réchauffement. Autre exemple donné par le média, une reforestation a entraîné un épuisement local des nappes phréatiques, asséché les cours d'eau et détruit les tourbières, lesquelles ont alors relâché le carbone qu'elles stockaient. Par ailleurs, la plupart des reforestations sont conduites en monoculture ou presque, c'est-à-dire qu'on ne plante qu'une seule et même espèce d'arbre. Le problème, c'est qu'on obtient une forêt moins résiliente et fragile. Et si on ne retient pas une espèce adaptée au lieu de la reforestation, elle peut prendre le dessus sur les autres espèces déjà présentes. Bref, tu l'auras compris, si on plante n'importe quoi, n'importe où, l'initiative peut être contre-productive. Et tiens, petite anecdote tant qu'on est dans les arbres. Dans l'un de ses articles, le site YouMatter a calculé le nombre d'arbres qu'il faudrait planter en France pour compenser l'empreinte carbone de tous les Français. D'après leurs résultats, il faudrait couvrir d'arbres 38% du pays. Sur une surface équivalente à la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie et l'Île-de-France. Voilà, voilà. Le site met également en avant une étude publiée en 2017 dans une revue scientifique américaine selon laquelle, semble-t-il, la reforestation pensée à l'échelle mondiale pourrait nous permettre d'atteindre au maximum un tiers des réductions nécessaires pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Il y a donc probablement un coup à jouer à ce niveau-là, mais on l'a vu, il faut que ce soit bien pensé. Et dans tous les cas, parier uniquement sur la reforestation est insuffisant. Bon alors, on a beaucoup parlé d'arbres, mais en réalité, le mécanisme de compensation carbone ne se limite pas à la reforestation. La compensation carbone, qui peut d'ailleurs être également de l'initiative d'une collectivité ou d'un particulier, consiste à soutenir financièrement un projet de réduction ou de séquestration d'émissions de gaz à effet de serre. La reforestation est donc une option, mais financer des projets d'énergie renouvelable peut en être une aussi. En France, le label bas carbone est supposé attester de la réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'un projet. Mais ce label, comme précisé par le ministère de la Transition écologique, ne garantit pas pour autant la qualité du projet. Bon et donc, avec tout ça, la compensation carbone, c'est bien ou pas ? Et une fois n'est pas coutume, la réponse n'est ni oui ni non, mais quelque part entre les deux. Faisons une analogie avec la compensation écologique, qui vise, elle, à compenser les impacts d'un projet sur la biodiversité. En France, le maître d'ouvrage du projet doit respecter la séquence suivante : éviter les impacts, les réduire s'ils sont inévitables, et enfin compenser les impacts résiduels. La logique doit être la même pour la compensation carbone. La première préoccupation des entreprises, comme d'ailleurs des collectivités ou des particuliers, ne devrait pas être de compenser, mais bien de réduire leurs émissions, par exemple en revoyant leur modèle économique. La réduction des émissions est d'ailleurs au cœur du discours du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. On l'a vu, le mécanisme de compensation peut parfois s'avérer contre-productif. On l'a vu aussi, même bien gérée, la reforestation est insuffisante à elle seule pour compenser nos émissions. Les énergies renouvelables, quant à elles, ont une empreinte carbone non nulle, même si elle est réduite en comparaison d'autres types d'énergie. La compensation, donc, pourquoi pas, mais en dernier recours. Elle ne doit pas devenir un prétexte pour ne pas réduire les émissions à la source. Car un autre problème concerne le discours de certaines entreprises affichant des discours marketing dans lesquels elles se prétendent climatiquement neutres ou neutres en carbone ou toute autre expression similaire. Pourtant, selon le cabinet Carbon 4, spécialisé dans la stratégie bas carbone, le concept de neutralité carbone à l'échelle d'une entreprise n'est pas fructueux et la neutralité carbone est un concept qui n'a de sens qu'à l'échelle planétaire. La neutralité carbone, comme le souligne le cabinet, est un objectif très ambitieux qui nécessite des réductions drastiques des émissions de gaz à effet de serre. L'une des raisons pour lesquelles la neutralité carbone n'a pas vraiment de sens pour une entreprise est que celle-ci compte dans ses émissions des émissions directes et indirectes et que la part prépondérante des émissions d'une entreprise tombe le plus souvent dans les émissions indirectes, telles que l'extraction des ressources ou les déplacements des salariés. Le cabinet souligne également le fait qu'une entreprise ne peut fondamentalement pas prétendre à une neutralité climatique de par sa nature, au vu de ses impacts en termes notamment de production, d'emploi et de création de richesses. Pour tenir compte de cette réalité, et pour décorréler l'action d'annulation d'empreintes carbone et le financement de projets en faveur de la neutralité carbone, le cabinet Carbon 4 propose d'ailleurs de remplacer le terme « compenser » par « contribuer ». Selon lui, la démarche d'une entreprise doit suivre les étapes suivantes. Réduire ses émissions directes et indirectes, réduire les émissions des autres par exemple en commercialisant des solutions bas carbone, et augmenter les puits de carbone. On est donc sur une démarche globale. Le problème du discours de neutralité climatique des entreprises est qu'il laisse à penser aux consommateurs que leurs actes de consommation n'ont pas d'impact. Or, on l'a vu, la compensation n'est pas toujours efficace d'une part et n'empêche pas les émissions d'autre part. En résumé, donc, la compensation carbone est un outil qui a son intérêt en parallèle des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Mais il ne faut pas considérer que la seule compensation carbone nous permettra d'atteindre une neutralité carbone, une notion qui n'est pertinente qu'à l'échelle planétaire ou d'un État, en tout cas pas d'une entreprise. La neutralité carbone serait plutôt l'action conjointe de la réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre et de la création de puits de carbone. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Si oui, n'hésite pas à t'abonner comme d'habitude et si ce n'est pas déjà fait, aux pages Instagram de la Terre dans les épinards, à la page Facebook, à la newsletter du site de la Terre dans les épinards.fr. Bref, à tout, et n'hésite pas à me dire aussi dans les commentaires Insta ou Facebook ou par email s'il y a des sujets liés à l'écologie au quotidien que tu aimerais voir abordés et je verrai ce que je peux faire. En attendant le prochain épisode, prends soin de toi, de ton environnement et de ton porte-monnaie. Et on se retrouve en pleine forme. Salut !